Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, l'évêque du diocèse de Butembo Beni appelle tout un chacun à la sérénité et à la vigilance pendant cette période d'état de siège décrétée par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek appelle également le chef de l'État à tout faire pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays. 248 personnes ont déjà reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 à Goma. C'est le résultat de 3 jours de vaccination sur les différents sites de vaccination installés dans la ville. Notre invité est politologue. Le professeur Kaindo Mouessi pense que la gouvernance atypique durant l'état de siège présente de nombreux défis à relever dans un temps record dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal. Au Nord Kivu, l'évêque du diocèse de Butembo Beni appelle tout un chacun à la sérénité et à la vigilance pendant cette période d'état de siège décrétée par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek appelle également le chef de l'État à tout faire pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays. Il l'a fait savoir à travers un communiqué pastoral sur l'état de siège rendu public jeudi à Butembo. Grâce à Mzati pour les détails.
Dans ce communiqué pastoral, l'évêque de Butembo Beni commence par inviter tous les fidèles à la sérénité, à la vigilance et à la prudence en ces temps inédits d'état de siège. Face à la situation dramatique que nous traversons depuis plus de 7 ans à Beniville et territoire, en l'occurrence, les massacres à répétition, la tentation de perdre courage et de tomber dans le désespoir est grande, indique Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek. Mais à l'instar de Saint-Joseph, en cette année qui lui est particulièrement dédiée, apprenons à ne pas nous laisser abattre par les événements ni manipuler par les circonstances pour suit-il. L'évêque de Butembo Beni rappelle au chef de l'État, garant des institutions de la République, de faire absolument tout ce qui lui incombe devant les peuples et devant l'histoire pour que l'autorité de l'État, la paix et la sécurité des citoyens soient définitivement restaurées dans l'est du pays. Il interpelle aussi vivement tous ceux qui, de près ou de loin, sont complices du malheur de leurs frères et sœurs de revenir à la raison. Enfin, Monseigneur Sikuli réitère sa proximité et sa solidarité envers les habitants de Beniville et territoires victimes des massacres. Butembo, Amzati, Radio Kapi.
Nord Kivu, une dizaine des villages du groupement Banande Kainama en territoire de Beni s'est vidée de ses habitants depuis quelques jours et pour cause la multiplication des attaques ADF dans la région, mettant ainsi les populations dans l'insécurité la plus totale. Martial Papi Mokeba, reportage.
Les villages vidés de leurs habitats sont Kaukele Muziranduro, Vido, Kakuka, Buleba, Manzatu, Pwele, Misongo, Ngalanza, Ibanda, Semuliki, Kisui et Mutido. Selon la société civile locale, les habitants de ces villages ont fui les dernières attaques de ces dernières semaines perpétrées par les ADF. La dernière en date est celle de mardi dernier, lorsque 10 maisons ont été incendiées et 4 civils enlevés par les ADF. D'après la même source, la majorité de ces déplacés s'est dirigée vers Eringeti, Owicha et Beni, ainsi qu'à Boga, dans la province voisine de l'Ituri. Les villages de Kitimba est le seul à être occupé par au moins 5% de sa population, précise notre source. Selon des sources sécuritaires, les mouvements fréquents des ADF de l'est vers l'ouest du groupement de Banande Kainama en passant par la route nationale numéro 4 est à la base de la complexité de la situation sécuritaire dans cette région. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Kapi.
Environ 800 personnes, dont les femmes et les enfants, vivent dans les conditions précaires dans 3 villages, dont les chefferies de Mambisa et Baguru, en territoire de Djougou. Ce, après une incursion des miliciens de la Codeco il y a 2 semaines dans le village de Bakombe. Des sources sécuritaires dans la région craignent cependant la présence des éléments étrangers au centre de Kadilo, dans le secteur de Walendu-Djati, qui risque d'embraser la situation humanitaire dans cette zone. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation humanitaire demeure préoccupante dans plusieurs localités de Bayinama, Sayo, Padolé et Katsu en chefferie de Mambisa dans les territoires des Djougou. À la suite de la dernière attaque des miliciens de la Codeco dans la zone, de nombreux habitants ont déserté leur milieu. Plusieurs d'entre eux ont pris la direction de Lopa et Gaïa à plus ou moins 20 km dans le secteur de Walendu-Djati. Ils sont dépourvus de nourriture ainsi que de toute assistance en médicaments. Une situation qui exacerbe leur vulnérabilité, rapporte représente un notable du milieu. Les rares habitants qui vivaient des activités champêtres ont peur de s'y rendre, craignant pour leur sécurité. Drachou Baloufouga salue les opérations musclées à venir des FARDC qui vont être dépêchées dans cette zone pendant l'état de siège que vient de décréter le président de la République. Notre source alerte également sur la présence avant-hier des éléments étrangers au centre des Kalingo dans la collectivité de Walendu-Djatsi, ce qui risque de compliquer davantage la situation humanitaire de ces personnes vulnérables. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Direction Bukavu, dans le territoire de Kabaré, environ 3836 déplacés internes vivent dans les mauvaises conditions dans le groupement d'Ibrambi Katana, selon l'association de développement et de défense des droits humains Remopak Katana. Ces déplacés sont venus de Bunyakiri depuis le début du mois d'avril 2021, fuyant les affrontements entre les Maïmaï Nyatura dans le territoire de Kalehe. Ils vivent dans des familles d'accueil sans aide et n'ont pas à manger. Cette insécurité alimentaire dans laquelle vivent les déplacés internes inquiète plus d'un observateur. Remopak lance un appel aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de venir en aide à ces déplacés. Léon Migo, président du conseil d'administration au sein de Remopak, a été joint par Jean-Baptiste Ntonga.
Les conditions de vie alimentaire deviennent difficiles pour ces familles d'accueil, car même on venait d'enregistrer des morts d'enfants. L'ASBL Remopak demande aux personnes de bonne volonté et ONG humanitaires de s'imprégner de cette situation précaire inattendue pour pallier à ces problèmes qui guettent ces victimes déplacées en vue de participer à la stabilisation de ces ménages d'accueil en province du Sud Kivu. À Irambi Katana, avant 2197 cas, Bougoré 859 cas et Miti 780 cas.
Je le disais en titre, au Nord Kivu, 248 personnes ont déjà reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à Goma. C'est le résultat de 3 jours de vaccination sur les différents sites de vaccination installés dans la ville. Jusque-là, pas d'effet indésirable enregistré, indique le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination qui invite les personnes qui se retrouvent dans les groupes cibles à se rendre dans les sites de vaccination. Le point sur le déroulement de cette campagne à Goma avec Rosalie Zawadi.
Pour la seule journée de vendredi, 116 personnes ont reçu leur première dose du vaccin, un nombre qui réjouit le docteur Hans Batei, médecin coordonnateur du programme élargi des vaccinations à Nord Kivu, car selon lui, la progression est bonne.
Donc on a commencé avec 47, le deuxième jour on a vacciné déjà 85 participants. Nous voyons déjà une évolution en termes de progression. Aujourd'hui, on a déjà 4 sites opérationnels à l'hôpital provincial. Il y a 2 sites qui fonctionnent. Nous avons le site de Île Africa également. Et dans la zone de Karisimbi, il y a aussi 2 sites fonctionnels, donc l'hôpital militaire et l'hôpital général de Virunga.
Un habitant du Goma qui a reçu sa première dose de vaccin vendredi lance cet appel.
J'encourage les autres personnes à ne fût-ce que faire un déplacement d'aller vers le site. Mais ça fait 3-4 heures, je file, je marche.
Après Goma, cette campagne sera lancée lundi à Butembo avant de s'étendre vers les territoires, précise le médecin coordonnateur du programme élargi des vaccinations au Nord Kivu. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Célébration le 7 mai de chaque année de la journée mondiale des enfants orphelins du VIH SIDA. Au Maniema, le groupe scolaire Saint-Martin qui s'occupe de la prise en charge gratuite des études au sein de cette école a commémoré cette journée à Kindu en présence des autorités municipales. Sur place, un appel a été lancé aux autorités de la RDC et celle du Maniema en particulier à pouvoir attirer leur attention sur la vie des enfants orphelins du VIH SIDA. Florence Kizalunga pour le reportage.
Au cours de cette cérémonie, les enfants orphelins du VIH et SIDA ont réclamé leur bonne prise en charge. Comme nous dit ici Youma Rachidi, élève de la 6e année HPM.
Bien que nos études soient prises en charge gratuitement, nous éprouvons d'énormes difficultés en termes de logement, quittes scolaires, soins médicaux, poursuivre nos études post-secondaires et la nutrition. Durant les 7 ans, nous avons perdu 7 collègues orphelins suite au manque de soins médicaux appropriés. C'est ainsi que nous lançons un plaidoyer auprès de nos autorités, je personne de bonne volonté, de pouvoir appuyer les promoteurs du groupe scolaire Saint-Martin pour cette initiative.
Cet appel a été réitéré par le représentant du promoteur du groupe scolaire Saint-Martin, Oudjoudi Emmanuel Valentin.
En prenant en charge gratuitement les études des enfants orphelins du VIH-SIDA, nous sommes invités à d'énormes difficultés.
Le groupe scolaire Saint-Martin encadre à ces jours 69 enfants orphelins du VIH et SIDA. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Les enseignants de Butembo et Goma qui sont payés par l'État congolais vont bientôt bénéficier des services d'une mutuelle de santé pour leur corporation. Cette révélation a été faite ce vendredi à Butembo par Kambale Dalmon, assistant technique à la mutuelle de santé des enseignants à Kinshasa. C'était au sortir d'un échange de civilités avec le maire de la ville. Cette délégation, qui est en mission d'étude de faisabilité en vue d'implanter la mutuelle, affirme que les enseignants bénéficiaires ne pourront plus payer les soins de santé pour eux-mêmes et quatre de leurs dépendants. Kambale Dalmon, chef de la délégation, explique au micro de Sadiki Aboubakar.
La mutuelle existe bel et bien à Kinshasa depuis environ 10 ans. Elle est aussi au Katanga, elle est aussi en Équateur. Il y a d'autres provinces qui sont aussi date de phase déjà d'implantation. Et bel et bien, nous sommes à la première phase et nous sommes venus dans une mission de prospection pour s'enquérir réellement s'il y a l'appropriation donc des bénéficiaires, des enseignants et aussi des acteurs sociopolitiques pour pouvoir implanter la mutuelle. Et donc, je peux confirmer que le projet a bel et bien commencé et dans ce laps de temps, la mutuelle pourra déjà s'installer ici à Butembo et à Goma. Et la mutuelle de santé va prendre à charge les enseignants qui sont mécanisés et payés par l'État congolais. Et avec leur dépendant, ça veut dire on prend en charge l'enseignant qui est titulaire d'un numéro matricule avec quatre personnes que nous appelons les dépendants. Et donc, il y aura des cotisations massielles qui sont directement retenues à la source. Mais jusqu'ici, elles ne sont pas encore déterminées.
Le secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Butembo, s'est dit très satisfait de cette annonce. Toutefois, Irénée Mutumwa demande que la somme qui sera ponctionnée de leur salaire pour cette mutuelle ne soit pas exorbitante, car, dit-il, le dit salaire ne leur permet pas déjà de nouer les deux bouts du mois. Depuis le 6 mai 2021, les étudiants de l'université de Kinshasa peuvent accéder gratuitement à l'internet grâce au réseau Wi-Fi offert à travers le ministère des PETENTIC, Postes Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Pour s'assurer du bon fonctionnement de la connexion, les experts du ministère des PETENTIC et de l'ARPTC, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, sont descendus sur terrain. Après le lancement du Wi-Fi, les bénéficiaires, notamment les étudiants et les chercheurs, ont reçu les explications sur la procédure à suivre pour se connecter. Reportage de Billy Yvan Lutomba.
Ça me réjouit. Un Wi-Fi gratuit, ça permet à ce que nous puissions faire nos recherches librement et réduire le taux de consommation pour ce qui est du méga.
Par exemple, des techniques chirurgicales, à travers le Wi-Fi, on peut voir dans de différentes universités étrangères d'autres techniques.
Parfois même, on est pénalisé par la connexion qui est mauvaise. Cette idée, ça va beaucoup nous aider à mieux étudier parce qu'on aura accès à des sites sur Internet. Il y a même des cours qui se donnent en ligne qu'on pourra profiter. C'est vraiment une très belle
chose. Ils sont tous étudiants. Avec cet avènement du Wi-Fi gratuit dans leur université, nombreux ont témoigné leur enthousiasme. Une idée d'après Paterne Binene Akadiat, conseiller du ministre du PETENTIC qui vise à casser la facture du numérique et en faire un levier du progrès social et du développement de la RDC selon la vision du président de la République, souligne-t-il.
La meilleure façon pour nous d'épauler ces vaillants étudiants, c'est de leur donner un accès gratuit à Internet. Le projet va s'étendre sur toute la République démocratique du Congo. On a commencé avec l'UNIKIN. Demain, il y aura des places publiques, par exemple le Kitambo Magasin qui est aussi en train d'arriver. Il y a plusieurs autres coin de la RDC, pas seulement les universités mais aussi des coins publics.
Le lancement du Wi-Fi gratuit sur l'ensemble du site de l'université de Kinshasa est le premier projet pilote, fruit du registre des appareils mobiles et une cérémonie officielle d'inauguration sera organisée dans les prochains jours, précise le conseiller du ministre.
C'est une bonne chose.
Actualité internationale.
Au Tchad, après une matinée des violences, le calme semble être revenu dans la capitale N'Djamena. La coordination citoyenne Wakid Tama a appelé à des marches dans tout le pays pour protester contre les autorités de transition instaurées après la mort d'Idriss Déby il y a quelque 3 semaines, à savoir le conseil militaire de transition dirigé par le général Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président, et contre le gouvernement qu'il a nommé par décret. Au Zimbabwe, la société civile dénonce les tentatives du régime de changer la constitution pour consolider le pouvoir du chef de l'État arrivé au pouvoir en 2017 après la destitution de l'ancien président Robert Mugabe. Cette semaine, les membres du Parlement sous le contrôle du parti au pouvoir, la ZANU-PF, ont fait passer un amendement de la Constitution qui permettra au chef de l'État de contrôler un peu plus l'appareil judiciaire.
L'invité.
La gouvernance atypique durant l'état de siège présente de nombreux défis à relever dans un temps record dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il s'agit notamment de la prise en charge des facteurs internes de l'insécurité, tels que la dimension ethnique, le chômage et l'échec de la démobilisation des groupes armés nationaux. D'après le politologue, le professeur Kaindo Mouessi, la dimension sous-régionale de l'insécurité dans cette région devra également être prise en compte. Il s'entretient ici avec Sadiki Aboubakar.
Professeur Mouessi, bonjour.
Bonjour.
L'état de siège est déjà décrété dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Les animateurs, notamment les gouverneurs et vice-gouverneurs militaires, sont déjà nommés. Quels sont les enjeux, selon vous, de cet état de siège?
Les enjeux, c'est que l'état de siège décrété, dont les animateurs sont déjà connus au niveau des provinces, doit pouvoir instaurer une gouvernance atypique, une nouvelle forme de gouvernance provinciale, qui certainement a pour objectif d'essayer de pacifier les deux provinces, la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, ce qui passerait par la neutralisation, comme on dit, des groupes armés étrangers et nationaux qui opèrent dans les deux provinces précitées. Mais cela voudrait aussi dire qu'il faudrait qu'on arrive à bien composer avec les forces de la MONUSCO, qui seront toujours aussi opérationnelles dans la région. Et cela aussi suppose que l'on arrive à bien contrôler les frontières pour en fait couper la chaîne d'approvisionnement de ces groupes armés, mais cela suppose aussi que l'on soit à mesure de pallier un certain problème qui sont signalés au sein de l'armée congolaise. Vous vous souvenez, il y a quelques temps à Beni, on a déniché un
trafic d'armes.
Et trafic d'armes au sein de l'armée. Et ce qui montre en fait que la tâche n'est pas facile, surtout que c'est dans un temps un peu record, même si l'état de siège a l'avantage de pouvoir conférer tous les moyens nécessaires, tous les pouvoirs, concentrer tous les pouvoirs entre les mains des gouvernants, en fait des militaires.
Alors, les anciens animateurs de province notamment et d'autres entités, quel sera leur rôle pendant cet état de siège?
En fait, ces autorités seront tout simplement mises à congé, mais je pense aussi que si les militaires qui ont désormais les commandes de province et qui auront la commande des différentes entités veulent réussir, ils doivent pouvoir composer avec ces autorités quand même, qui sont en fait en quelque sorte des bibliothèques, parce qu'ils connaissent suffisamment ce qui se passe dans la région. Ils détiennent un certain nombre de renseignements. Et je pense qu'à titre consultatif, on pourrait également les mettre à contribution.
Et quels sont, selon vous, les défis qui représentent cette situation d'état de siège?
Les premiers, c'est qu'il existe beaucoup d'acteurs qui, en fait, sécurisent l'Est de la RDC. Je ne suis pas en train de voir comment l'état de siège qui est décrété pourrait, n'est-ce pas, prendre en compte aussi un certain nombre de facteurs internes, telle que la dimension ethnique. Parce que dans ce qui se passe dans la région, il y a aussi l'imbroglio identitaire. Il y a également des facteurs liés au chômage, à l'échec aussi de la politique de démobilisation. Il y a parfois des groupes armés qui veulent se rendre, faute de prise en charge. Parfois, les éléments rentrent en brousse. Il y a la convoitise aussi des pays voisins. Les pays voisins, ils sont pour quelque chose dans ce qui se passe dans ces deux provinces.
N'oublions pas la province du Sud qui, bien qu'elle n'est pas concernée par l'état des sièges.
Et justement, mais en même temps, travailler en fait sur la dimension sous-régionale de la question. C'est à ce prix-là, peut-être, que l'on peut arriver tant soit peu à pacifier en fait les deux provinces, mais aussi l'Est, la RDC.
Durant cet état de siège, il y a certaines libertés qui vont être restreintes. Également, au niveau judiciaire, il doit y avoir un changement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, c'est cela aussi, n'est-ce pas, l'état de siège qui en ferait en fait un certain nombre de libertés. liberté et qui donne un peu beaucoup de pouvoir aux juridictions militaires pour les infractions à caractère pénal. Et c'est ce qui va réellement se passer. Et c'est donc, en quelque sorte, l'indépendance de la justice et la séparation même du pouvoir qui sont en fait des éléments qui sont mis à rude épreuve par cet état d'urgence. Et certainement que si ce n'est pas bien contrôlé, cela peut être à la base d'un certain nombre d'abus.
Professeur, vous adressez quel message à la population, un message d'accommodation, mais aussi aux nouveaux animateurs par rapport à l'exercice de cet état de siège?
Bon, comme l'état de siège est déjà décrété, il faut faire avec cet état de siège, mais en se disant que la liberté de penser n'est pas en fait supprimée, que l'on peut toujours s'exprimer et collaborer avec les nouvelles autorités en leur fournissant des informations nécessaires, parce que c'est dans ce dialogue que l'on peut arriver à mettre à profit cette situation exceptionnelle d'état de siège.
Merci.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.